Jacques Lang, nous allons parler avec vous de l'Opéra Bastille. Opéra Bastille, donc vous êtes... Alors, la première question qui me taraude, comme dirait l'autre, c'est qu'est-ce qui vous a pris de vouloir créer cet Opéra Bastille, faire cet Opéra Bastille à une époque où l'opéra était un peu considéré comme has-been, hein?
Oui, et en effet, lorsque j'ai proposé cette idée, beaucoup de gens disaient, des amis proches même, « Mais tu es complètement cinglé, un opéra aujourd'hui, ça n'a aucun sens, c'est un art d'hier, en voie de disparition, ça n'intéressera plus personne. » Et pour des raisons diverses, j'avais une analyse très différente. Je pensais que l'art lyrique, art complet, entremêlant la parole, la musique, le mouvement, les couleurs, donc des histoires fabuleuses, était destiné à un nouvel avenir. Mais pour cela, il nous fallait construire un nouvel opéra, parce que l'Opéra Garnier, qui est un bel endroit, est très à l'étroit, et devait accueillir ensemble et le ballet de l'opéra, et les représentations d'art lyrique. Bref, finalement, on donnait très peu de représentations. Et si l'on voulait redonner un souffle et un élan, il fallait disposer d'un deuxième opéra. Et c'est devenu le cas. Aujourd'hui, Paris est devenue la capitale mondiale de l'art lyrique. De même que le ballet est devenu le plus grand ballet du monde.
Alors, l'opéra Bastille, la Bastille, c'était un peu provocateur.
C'était un peu provocateur, d'une certaine manière. L'idée m'a plu, effectivement, à coller deux noms qui sont pleins de charges émotives. L'art lyrique, l'opéra, art supposé bourgeois ou aristocratique. La place de la Bastille, ex-place révolutionnaire. C'était une association un peu détonnante. D'ailleurs, ça a contribué un peu à enrichir, si j'ose dire, les batailles, les polémiques qui n'ont pas manqué pendant toutes ces années, de 81 à 89, jusqu'au 14 juillet 89, quand nous avons inauguré avec François Mitterrand l'opéra en présence d'une quarantaine de chefs d'État du monde.
30 ans déjà.
30 ans déjà, trop vite.
Jacques Lang, autre actualité, donc, c'est à l'Institut du Monde Arabe. Alors, moi, je ne vous voyais pas dans le foot, mais quoi qu'il en soit...
Je ne suis pas spécialiste de foot.
Quoi qu'il en soit, eh bien, vous avez décidé de célébrer le football, donc avec une grande exposition qui aura lieu de fin avril, je crois, jusqu'à la mi-juillet, à l'Institut du Monde Arabe. Alors, pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que le monde arabe et le foot sont intimement liés par mille et une histoires. Et nous allons essayer de raconter à travers des récits vivants et concrets comment le monde arabe, les pays arabes se sont appropriés le foot de diverses manières. Bon, le Maroc a été un des grands pays de foot avec des vedettes.
L'Égypte.
Bon, l'Égypte, n'en parlons pas, c'est le pays du foot. D'ailleurs, ils viennent d'être désignés comme pays pour accueillir la Ligue des champions d'Afrique. Il y a le plus grand footballeur du monde est égyptien. Il est en Angleterre aujourd'hui. L'Algérie s'est fait connaître notamment à travers quelque chose qui concernait l'histoire politique.
C'est plus politique, oui.
C'était pendant la guerre d'Algérie, quand les joueurs français, disons d'origine algérienne, ont fait sécession et ont créé l'équipe du FLN qui a parcouru le monde. En Jordanie, j'ai appris chemin faisant, il y a toute une tradition de foot féminin. Ne parlons pas du Qatar qui va organiser la grande rencontre mondiale, sans oublier le PSG, même si le PSG n'est pas un club arabe, c'est un club français, parisien, mais il a des liens avec plusieurs pays arabes.
Et puis vous allez transformer le parvis de l'Institut du Monde Arabe en un immense stade, enfin en un stade de foot avec des invités prestigieux, bien sûr.
On l'espère, et donc cette exposition sera à la fois très pédagogique, elle racontera des histoires extraordinaires, et en même temps ce sera extrêmement festif. Et on projettera sur un grand écran tendu sur la façade de Lima, en direct, certains matchs.
Merci Jacques Lang. Une dernière question. Je fais un sujet sur une personnalité, un livre, le livre qui vous a marqué, alors je sais que vous avez une bibliothèque complète, mais vous savez, est-ce qu'il y a un bouquin qui vous dites « Ah, celui-là, c'est celui que j'ai envie de relire » ou que je...
Écoutez, je vais dire très franchement, j'ai toujours envie de relire l'Odyssée. L'Odyssée, c'est indémodable. Et en plus, beaucoup d'auteurs... contemporains se sont inspirés de l'Odyssée pour écrire leur propre histoire ou leur propre ou des romans personnels. L'Odyssée, c'est un monde inouï, étonnant, décapant, et puis on traverse et l'histoire et la géographie, les mythologies, et puis cette Grèce que j'aime tellement.
Il y a un plan humain aussi.
Il y a un plan humain, oui. Et puis cette histoire d'Ulysse, l'histoire de Pénélope, et puis c'est la suite de la guerre de Troie. Enfin, chaque fois que je cherche un bouquin pour me transporter ailleurs, je choisis l'Odyssée.
Merci Jack Lang, merci beaucoup.
Merci beaucoup.